sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.
Travailleuse, travailleur, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant, de plus scandaleux que de ne pas croire en la démocratie ? Moi-même, quand on me demande « êtes-vous démocrate ?», je me tape.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Barthas, sur le 107 de la bande FM en Sud-Lozère et dans le monde entier sur radiobarthas.net. Et aujourd'hui, dans ce Midi et des Poussières, dernier épisode de notre série d'émissions spéciales consacrées aux élections municipales. Pour clore cette série, je vous propose de la matière à penser le futur des élections municipales, comment le fonctionnement démocratique à l'échelon des villes pourrait changer, quel rôle les communes pourraient jouer à l'échelle nationale. Il y a quelques semaines, c'était le jeudi 19 février précisément, j'ai échangé avec Alan Poplar, qui était de passage à Florac à l'occasion d'une conférence organisée par l'Institut La Boétie pour présenter le livre « Pour un nouveau communalisme ». Alan Poplar en est l'un des quatre co-auteurs et il était venu accompagné de la députée de la 9e circonscription de l'Isère, Sandrine Nosbé, du parti La France Insoumise, pour échanger avec les Floracoises, les Floracois, et la discussion était modérée par François Cognetsny, sous sa casquette non pas de candidat sur la liste Ensemble pour le bien commun, mais sous celle de militant LFI de Lozère. Car oui, l'ouvrage « Pour un nouveau communalisme », c'est un livre de l'Institut La Boétie, donc, qui est un think tank ou groupe de réflexion affilié au parti La France Insoumise. Je ne vous cacherai pas que j'ai un peu hésité avant de prendre la décision de diffuser sur Radio Barthas mon entretien avec Alan Poplar, mais j'ai finalement choisi de le faire car je considère que cet ouvrage et les idées qui s'y exposent et qu'Alan Poplar défend, les propositions politiques pour gouverner les communes autrement, les analyses critiques de sujets comme la spéculation immobilière, la ségrégation socio-spatiale, qu'on soit d'accord avec celle-ci ou non, elles contribuent à la réflexion et donc à un débat éclairé sur les enjeux de ces élections municipales. Et cet ouvrage, pour un nouveau communalisme, c'est un moyen, parmi d'autres, pour penser la ville, penser la démocratie à l'échelon municipal. Et je me suis donc dit que ce serait intéressant et peut-être utile pour nourrir le débat. Je tiens à déclarer que la diffusion de cet entretien ne signifie pas que Radio Barthas affiche son soutien à ses propositions, à ce projet politique qui est celui de la France Insoumise. Radio Barthas est une radio associative non partisane, donc cette diffusion est à titre informatif et non à titre militant. Ceci étant dit, je vous laisse maintenant en compagnie donc d'Alan Poplar qui s'engage, lui, pour un nouveau communalisme.
Alors, je m'appelle Alan Poplar, je suis l'un des quatre auteurs d'un livre qui vient de paraître, enfin qui est apparu il y a quelques mois, qui s'appelle « Pour un nouveau communalisme » et qui a été écrit à l'initiative de l'Institut La Boétie.
Qu'est-ce que c'est le nouveau communalisme ?
Le nouveau communalisme, c'est un mot d'ordre dans la bataille des municipales. Il faut comprendre que le livre qu'on a écrit, c'est un livre d'intervention qui est stratégique, théorique, programmatique et qui essaye d'indiquer ce qu'on a envie de faire. Alors le « on », c'est les insoumis. Et l'ensemble de leurs alliés localement, ce qu'on a envie de faire dans la bataille des municipales, ou plutôt comment on envisage de subvertir l'élection municipale pour en faire autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire faire des communes un point d'appui dans la construction d'une 6e république sociale, écologique, démocratique, et des communes dans lesquelles enfin le peuple puisse intervenir pour satisfaire ses besoins.
Vous dites qu'enfin le peuple puisse intervenir parce que à présent le diagnostic c'est que l'échelon communal ne permet pas une intervention citoyenne politique.
L'idée, c'est le diagnostic, c'est que en effet la vie politique communale souvent se réduit à que la politique communale souvent se réduit à une forme de politique très gestionnaire. Où il n'y a pas véritablement d'alternative, où les formes de domination d'ailleurs s'exercent de manière aussi violente qu'à l'échelle nationale. Il ne faut pas imaginer que la commune c'est un espace irénique, sans conflit, etc. Pas du tout. Et donc il faut essayer d'imaginer un cadre politique où à côté la démocratie représentative, l'élection, on puisse avoir aussi des formes de démocratie directe, je dis à côté, parfois même contre la démocratie représentative, des formes d'intervention directe de la population, de telle sorte à ce que cette population puisse intervenir dans les affaires communales quand elle le souhaite, et pas simplement au début du mandat ou à la fin du mandat. Donc ces outils qu'on a essayé d'imaginer, ça peut être le référendum d'initiative citoyenne, ça peut être évidemment le droit de pétition élargi, ça peut être la révocation des élus, enfin un ensemble de choses qui existent déjà, qui ont été expérimentées déjà, et avec lesquelles il faut absolument renouer, parce que l'élection municipale, elle se caractérise comme toutes les autres élections par un océan d'abstention.
Donc ça veut dire qu'il n'y aurait pas vocation à supprimer le maire ou son conseil municipal ou les élections municipales, mais c'est en plus de ces institutions représentatives-là, en créer des nouvelles.
Oui, c'est de mettre les élus sous le contrôle du peuple. Aujourd'hui, les citoyens n'ont d'autre pouvoir que de se déterminer a priori sur un programme et a posteriori sur un bilan. Mais entre les deux termes du mandat, il y a pas vraiment de manière d'intervenir dans les affaires communales. Et donc,
on peut quand même assister aux conseils municipaux en tant que citoyen d'une commune et à ce titre-là faire des propositions aussi ou faire réagir les élus.
On peut y assister, on peut y prendre la parole, pas tout le temps d'ailleurs, mais là l'idée c'est pas simplement que la population elle soit présente ou consultée, c'est qu'elle soit décisionnaire. On se demande souvent aujourd'hui où est le lieu de la souveraineté, est-ce qu'il est chez les représentés ou chez les représentants. On a en réalité à l'échelle communale comme à l'échelle du pays, quelque chose que les révolutionnaires français en 89 avaient déjà, en fait, un risque qu'ils avaient déjà identifié, qui est celui d'une forme de despotisme représentatif, où les représentants, en fait, ont pris le dessus sur les représentés. Donc il faut retrouver une forme d'équilibre, il faut retrouver les voies d'une intervention populaire dans les affaires politiques, d'une mobilisation populaire, parce qu'en réalité, sans cette mobilisation populaire-là, on ne pourra pas rompre avec l'ordre politique tel qu'il est, on ne pourra pas satisfaire les besoins de la population, on ne pourra pas en finir avec une politique violente, inégalitaire, injuste, écocidaire, etc. Il faut donc que la population s'en mêle. Et c'est ça le communalisme.
Est-ce que ça voudrait dire aussi revoir les compétences des communes et les élargir ? Est-ce qu'avec le nouveau communalisme vient aussi une transformation, un transfert peut-être des compétences de l'échelon national ou régional ou départemental vers l'échelon communal ?
Alors, peut-être que la première réponse, ce serait d'indiquer qu'il faut rompre avec ce transfert massif de compétences qui s'est fait vers les intercommunalités. Ou plutôt, si on veut préciser un peu les choses, il faut renouer avec des formes de coopération entre les communes, mais qui sont librement choisies. Parce qu'aujourd'hui, ces intercommunalités fonctionnent souvent comme des verrous bureaucratiques. On a transféré quantité de choses, le transport, les ordures, l'eau, etc., sans que jamais la population soit saisie de ces questions-là. On a fait des questions techniques, alors qu'elles sont des questions politiques, qui souvent déterminent, conditionnent les conditions d'existence de la population. Donc il faut d'abord rompre avec ça. Et peut-être pour préciser la définition, le communalisme, disons, insoumis, on va dire ça comme ça, pour aller vite. En tout cas, le communalisme qui est défendu dans ce livre-là, qui n'est pas la seule version du communalisme. Hein. Il y a plein de manières d'être communaliste. Il y a un communisme libertaire, par exemple, qui n'est pas exactement celui avec duquel nous parlons là. Il s'agit d'articuler l'échelle de la commune avec l'État. Hein. Et parce que si la commune est le lieu où les besoins peuvent être déterminés de la manière plus fine, soit nous pensons qu'il faut l'État pour planifier un certain nombre, ce gouvernement des besoins, et pour qu'il puisse s'appliquer de la manière la plus égalitaire qui soit sur le territoire.
Mais quand on voit les taux de participation aux élections municipales, qui sont clairement pas les plus hauts dans toutes les élections qu'on a ici en France, comment est-ce que vous pouvez être sûr que les citoyens, les citoyennes aient envie en fait, de s'impliquer plus et qu'ils auraient envie d'aller vers ce nouveau mode de fonctionnement ?
Je suis sûr de rien. Ce que je constate simplement, c'est que ce que nous constatons simplement, c'est que si on continue comme ça, la situation va aller s'empirant. Il faut donc de nouveau rompre avec ce cycle ou ce cercle de la dépossession. Parce qu'encore une fois, rien ne se fera sans le peuple. Donc il faut trouver les moyens de le convaincre, trouver les moyens de que le peuple soit véritablement souverain, qu'il ait toute sa place dans la définition et dans la détermination des affaires communales. Mais comme toutes les luttes qui se mènent, nul n'est sûr de les gagner quand il les commence.
Et le peuple n'est pas d'accord avec le peuple. Il y a plusieurs peuples quand même qui s'affrontent de façon très frontale, quoi.
Oui, mais...
Et dans les petites communes, on le voit aussi très bien. Par exemple, ici à Florac, il y a deux listes sur une commune de 2000 habitants. C'est... Voilà.
Bien sûr. Et le dissensus, en quelque sorte, est consubstantiel à la démocratie. Ce n'est pas un problème. Ce qu'on peut observer néanmoins, c'est que quand... Il ne faut pas imaginer les choses de manière statique, mais plutôt de manière dynamique. Quand on commence à discuter, à débattre des choses, alors les habitants peuvent aussi changer d'avis au contact de leurs concitoyens. Ce livre-là m'a donné l'occasion d'aller dans beaucoup d'endroits. On a fait une soixantaine de dates pour le moment. Et dans l'une des communes où je me suis déplacé, le maire avait décidé d'organiser une votation sur la question de l'eau, sur un retour de l'eau dans le giron public. C'était alors délégué à Veolia ou à Suez, je ne sais plus. Eh bien, au terme d'un débat où les partisans du privé et les partisans du public se sont affrontés de manière assez véhémente, où les arguments ont été échangés, où la population s'en est mêlée, on a eu une votation qui a réuni 80% des votants, c'est-à-dire nettement plus qu'aux élections. D'ailleurs, on observe ça dans les votations de manière générale. La population s'en mêle davantage quand elle est associée et quand surtout elle détermine les questions auxquelles on lui demande de répondre. Et sur ces 80% de participants, 98% de la population a voté pour un retour de l'eau dans le public. Parce qu'ils ont compris que ça répondait à une nécessité économique, ça coûte moins cher, une nécessité sociale, il faut la gratuité des premiers mètres cubes d'eau pour satisfaire la vie de la population, et une nécessité écologique évidemment. C'est qui ces 98% de la population? C'est pas des insoumis, c'est pas des écologistes, c'est pas des communistes, c'est même pas des socialistes. Il y a des gens de droite dedans, il y a des gens d'extrême droite. C'est le peuple. Quand le peuple est saisi des questions essentielles à sa vie et à sa survie, eh bien, il détermine souvent les voies les meilleures pour satisfaire les besoins qui sont les siens.
Vous parliez justement du coup de la gestion de l'eau. Le budget, c'est souvent aussi quelque chose qui bloque à l'échelon communal. Il y a des communes qui aimeraient soutenir plus leur commerce pour maintenir un centre-ville vivant, qui aimeraient soutenir plus leurs associations. Malheureusement, les budgets sont très restreints. Est-ce qu'avec ce nouveau communalisme, il y a aussi, je ne sais pas, de nouvelles taxes ou un transfert budgétaire qui serait effectué pour donner plus de moyens financiers aussi aux actions communales?
Alors ça, c'est de l'ordre de la loi. Vous avez raison de préciser que depuis en gros une vingtaine d'années, à la faveur de la baisse des dotations globales de fonctionnement et de la réforme de la fiscalité locale, donc suppression de la taxe professionnelle, puis suppression de la taxe d'habitation, les recettes des communes ont fondu. Que l'austérité, en quelque sorte, a mis au pas les communes en mettant en cause un principe fondamental de notre Constitution, qui est la libre administration des communes. Parce qu'aujourd'hui, elles n'ont plus les moyens de mettre en œuvre les politiques qu'elles devraient mettre en œuvre. Voilà. Donc, il faut d'abord identifier ce problème-là et comprendre, par conséquent, que la solution, elle ne pourra pas passer par l'échelon local. Il faudra nécessairement en passer à un moment donné par la conquête de l'appareil d'État. Donc, en quelque sorte, la bataille des municipales, de notre point de vue, est une répétition générale, est un galop d'essai, une préfiguration de la bataille qui s'annonce pour 2027, sans laquelle tous ces verrous-là resteront au moins un peu en place. Donc, il faut les faire sauter et commencer par l'échelle communale et ensuite le faire de manière profonde et populaire à l'échelle du pays.
Merci beaucoup, Alan Poplar.
Merci.
Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 50 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de scotch and jean fils, et tout le reste je m'en fiche. Ils ont voté, puis après, j'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté? En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul, les Français. Ils ont voté, et puis après. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais, ou suisse ou con, ou bien insecte, partout ils sont confédérés. faut les voir à la télé urne avec le général Frappard et leur bulletin dans les burnes et le mépris dans un placard. Ils ont voté, puis après, dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé.
C'était Léo Ferré avec ce titre « Ils ont voté » sur Radio Bartas.
Midi et des poussières.
Et pour clore cette série d'émissions spéciales municipales dans Midi et des poussières, Solène nous propose le dernier portrait de sa galerie de rencontres avec les habitants du sud Lozère. On termine avec Clotilde, du Gabon aux Cévennes, née ici ou non, quelle différence ? Il faut simplement tenter de rester droit dans ses bottes.
Bah, on peut savoir à quoi vous pensez, les gars ?
Bah, à nous présenter à une élection. On en a déjà parlé, les mecs de droite ou les mecs de gauche, ouais, je veux dire, on est d'accord, c'est tous des pourris, surtout les mecs de gauche. Attends.
Tous pourris. Chronique de village.
Faut savoir qu'à Florac,
sur Radio Bartas.
C'est une petite commune extrêmement agréable.
Ne pas dire tous pourris, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre en démocratie.
Il y fait froid l'hiver, il y fait chaud l'été, mais les gens sont toujours sympathiques.
Quand je suis arrivé en Lozère, on m'a dit, tu verras ici, il suffirait qu'on fasse exploser les ponts et on serait vraiment peinards. En cette année d'échéance électorale avec les municipales qui arrivent bientôt et puis l'année prochaine les présidentielles, avec Radio Bartas on a voulu parler un peu de ça. Est-ce qu'on était vraiment peinards ici ? Est-ce que la politique existe dans nos vies ? Est-ce qu'elle nous dérange ? Est-ce qu'elle nous aide ? Est-ce qu'il est plus facile de s'investir ici que dans une grande ville ? Aujourd'hui j'ai voulu interroger quelqu'un qui justement s'était investi politiquement, localement. Et j'ai croisé la route de Clotilde.
Bah, merci, on est dans les locaux de La Pompe qui nous accueillent chaleureusement, puisqu'on habite toutes les deux assez loin l'une de l'autre quand même.
Avec plaisir. Je me suis posé la question, puis je me suis dit que c'était important. Ce qu'on disait avant que tu ouvres le micro, c'est qu'effectivement tout le monde se connaît. Donc ça a de gros avantages et de gros désavantages. Voilà, moi je suis franche, donc je préfère continuer à me regarder droit dans le miroir tous les jours.
Je ne te connais pas du tout, ce qui est fascinant. Du coup, on va commencer depuis le début. D'où tu viens et où est-ce que tu es née ?
Alors moi, je suis née au Gabon. Comme on me le fait remarquer régulièrement, presque tous les jours, quand je rencontre une nouvelle personne qui est du cru, elle, la première chose qu'elle me demande, c'est « Est-ce que je suis née ici ?» Et donc, moi, je réponds non. Qui sont face à une Gabonaise, mais qui est arrivée en 1975 avec ses parents. Gabon, région parisienne. Et ensuite, Cévennes.
Pourquoi tes parents, ils étaient au Gabon et pourquoi ils sont rentrés
Alors, mon père était... j'ai plus le mot...
Tu peux décrire, tu peux mimer.
Ce serait très drôle. Non, il est venu aider à fabriquer la télévision au Gabon et au Congo. Donc, c'était une aventure extraordinaire. Je crois que mon père a vécu les plus belles années de sa vie en Afrique, ouais. Moi, j'en suis partie très tôt, malheureusement. J'en suis partie, j'avais 6 ans.
T'as des souvenirs encore ?
Oh, j'ai énormément de souvenirs, et surtout des souvenirs de liberté.
Et du coup, tu te souviens quand t'es arrivée en France ?
C'est le gros choc de ma vie. Moi, je me sens pas du tout française. Je suis une enfant de la terre, on va dire, mais je suis pas du tout française. Bien sûr, j'ai une culture, et encore. J'ai un papa suédois, j'ai une maman corse, donc ouais, je sais pas trop. Les meilleures années de ma vie à l'école, c'était la maternelle en Afrique. Et ma première année ici, en Cévennes, ma rentrée en CM2. Voilà, les deux plus belles années de ma vie à l'école, c'est ça. On a fait des chansons, on a fait de la musique. Quand il neigeait, on allait faire des boules de neige.
Du coup, t'as retrouvé de la liberté un peu là.
Bah ouais, là, j'ai retrouvé une belle liberté. En fait, mon père est rentré d'Afrique. Revenir dans la hiérarchie et la connerie de la hiérarchie de la télévision, il n'a pas supporté.
Toi, t'avais quel âge ?
Je sais même pas quel âge on a en CM2.
Ah oui, genre
on a 9, 10 ans. Ils se baladaient pour savoir où ils avaient envie de se poser. Donc ils se sont vraiment baladés dans le sud un peu partout. Puis finalement, ils sont arrivés là. Ils ont choisi la commune de Saint-André-de-Lancise et le hameau du Viala. T'avais tous les babacool. Mais mon père, il y a 50 ans, voilà, il n'était pas là-dedans. Les gens disaient qu'il était le chef des hippies. Tu sais, quand on arrive, on a envie d'aller vers les gens du cru. Donc, dans le hameau, c'était très possible. Hein, les gens étaient très sympas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas né ici. Tu ne fais pas partie de la famille. Ça prend du temps, en fait. Tu vois, c'est un peu long. Voilà, moi, je pense que j'ai été toujours la Parisienne et que je suis encore la Parisienne, puisque moi, je suis retournée vivre. Enfin, j'ai fait ma carrière à Paris. Donc, à la décharge des gens du cru, il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés là et qui n'ont pas du tout été respectueux et qui ont fait un peu n'importe quoi aussi, hein, qui ont squatté, qui ne sont pas du tout allés communiquer avec les gens, qui peut-être avaient des mœurs un peu compliquées pour les gens du coin, alors qu'ils avaient le droit de vivre leur vie, mais peut-être de respecter celle des autres et pas de faire ça sous leur nez, tu vois, plein de trucs comme ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi ça ne prend pas, parce que l'autre est un continent à découvrir. Mon père est décédé en 2005, maman est restée dans le hameau. Elle allait régulièrement chez la doyenne, enfin non, parce que c'était toutes les deux les doyennes, elles avaient quelques mois de différence, où avaient lieu régulièrement des après-midi protestantes. Moi, j'y suis allée aussi, et c'était passionnant. J'ai trouvé ça formidable.
Sur des sujets
Sur plein de sujets, oui. Moi, j'ai dû aller en voir deux. Et la première, c'était un peu sur une histoire du protestantisme et de la liberté. Et c'était passionnant. Vraiment passionnant. Et alors moi, j'ai fait les Beaux-Arts à Nîmes. Le hasard a fait qu'un jour à Paris, une amie de mon cousin lui dit « Mais ta cousine, elle pourrait pas me faire une patine dans ma maison ?» Et donc je lui fais, puis elle me dit le matin en partout « Ne t'inquiète pas, j'ai une amie qui doit passer. » Elle est réalisatrice, elle vient faire un repérage. Et donc je tombe nez à nez avec elle, on discute, et elle m'a embarquée sur son court-métrage. Et donc je suis plutôt allée de ce côté-là, j'ai fait du cinéma. Chef déco, accessoiriste, parce que quand tu es dans ce milieu-là, en fait, il faut que tu saches faire tout.
Et là, tu es en retrait ?
Là, je suis pas forcément en retrait. Tu sais, cet événement mondial qui s'est passé il y a quelques années, ma maman vieillissait beaucoup et donc je revenais de plus en plus longtemps et de plus en plus souvent à la maison. Et puis, il y a eu cet événement et je suis restée. Et puis, je suis pas repartie. J'avais pas du tout envie de retourner là-dedans. Parce qu'à partir du moment où tu goûtes le fait de vivre ici, Paris s'écroule. Et puis je me dis, qu'est-ce que je vais faire là? Mais ça faisait plusieurs temps qu'il y avait un truc qui se passait en moi. Ça a mis beaucoup de temps à évoluer, mais ça y est, maintenant c'est là. Je suis sur le point de monter ma micro-entreprise pour faire des soins énergétiques. Donc ça n'a rien du tout à voir avec ce que je faisais avant. Quoique réel, irréel, rêve, si, il y a peut-être quelque chose.
Et t'étais plutôt terre-à-terre avant ou ça...
Pas du tout, bah non, parce que je suis un peu née en Afrique. Donc c'est très compliqué quand t'as certaines perceptions, parce que tu peux pas en parler à tout le monde. Et tu peux même pas en parler du tout.
T'as un nom de... d'artiste ?
Alors ça sera un truc qui s'appellera énergie, soins et création.
C'est pas clou-clou les énergies, quoi. C'est
bon. Non, humilité. Mais clo-clo, les énergies, je pourrais peut-être le garder comme nom pour un truc. Ça pourrait être pas mal.
Ta page TikTok.
Oui, voilà, un truc comme ça, ouais.
Politique.
Non, il n'y a pas de politique, mais il y a le rapport à l'autre. Je te fais le lien, je suis revenue m'occuper de ma maman, et donc du coup, je me suis dit, tant qu'à être là, c'est les élections communales, eh ben, tu vis dans un lieu, pourquoi pas t'insérer et t'intégrer dedans, et puis comprendre comment ça fonctionne, rencontrer des gens, ça peut être intéressant. Et puis, à ma grande surprise, j'ai été élue, parce qu'à cette époque-là, on avait le droit de barrer les gens, moi, je trouvais ça chouette. Et puis voilà, et donc, moi, j'étais nouvelle, je ne connaissais rien de tout ça. Donc j'étais studieuse, je suis venue, j'ai écouté, j'ai regardé. Et puis arrive le premier, non le deuxième, parce que le premier, tu sais, tu votes pour le maire, enfin voilà, on t'explique comment ça fonctionne. Le deuxième conseil, on nous dit, ben voilà, il va falloir voter, il y a des trucs à voter, etc. On nous donne des papiers, je dis, ben super, ça sera pour la prochaine fois. Non. Donc en fait, on me demandait de voter des dossiers que je ne connaissais pas. Donc ce qui est chouette, c'est que Madame le maire a quand même décidé qu'on enverrait les documents bien en amont. Au départ, ça marchait très très bien, et puis après, ça s'est un peu lâché. C'est-à-dire qu'ils avaient leurs habitudes et leur façon de travailler. Mais ça n'intégrait pas les autres élus. C'était assez contradictoire, parce que des fois c'est « oui, mais on aimerait bien que vous investissiez, les autres aussi, c'est toujours nous qui faisons les choses ». Puis quand on s'investissait, ils n'étaient pas contents, parce qu'on n'avait pas la même façon d'appréhender le travail, de voir les choses. Ça les bloquait. C'était une perte de temps.
Du coup, tu avais l'impression que toi, ton impact, il était minime ?
J'avais aucun impact. J'avais la sensation d'être vraiment celle qui fait chier. J'étais celle aussi qui disait, mais pourquoi tu fais faire un mur ? Tu ne demandes pas à quelqu'un de faire un mur en pierre sèche. Nos routes même sont sur ces murs-là et elles ont tenu super longtemps. Et quand vous refaites un mur, vous ne le faites pas comme ça. Et puis après, il faut le refaire. Puis après, il faut le refaire. Je suis d'accord, ça vaut beaucoup plus cher au départ. Mais après, on est tranquille.
C'était quoi qui bloquait ? C'était de sortir ce gros billet-là de base ?
Oui, je pense que c'était ça. On peut faire ça pour moins cher, donc pourquoi on ferait ça ? C'est des histoires de famille, en fait. Moi, j'ai pas une famille qui... Je viens pas d'une famille d'ici. Donc peut-être que je peux voir les choses différemment. Mais quand toi, tu es d'une famille qui est inscrite dans ce territoire depuis des générations et des générations, je comprends aussi que ça soit compliqué d'accueillir l'autre. Et puisqu'ils n'ont pas compris, ce que j'ai toujours essayé de transmettre, c'est que je ne suis pas là pour être contre. Moi, je suis là pour dire, ben voilà, moi, je propose ça. Mais je ne suis pas contre. Moi, je n'étais pas contre, mais eux, ils étaient contre. Enfin, moi, mes idées, hein, pas moi. Parce que j'ai essayé de nourrir aussi tout ça, hein, en envoyant des documents, en envoyant des trucs, mais on me disait merci très poliment, mais j'avais vraiment la sensation que ce n'était pas forcément... Ça pouvait être lu, mais en diagonale et pas forcément intégré. Mmh. Ou de dire, oui, mais je suis d'accord, mais on ne pourra jamais faire ça. Dans le conseil municipal, je pense qu'on n'était pas beaucoup à être là pour les concitoyens. Les autres étaient là pour eux-mêmes, pour leur famille et pour leurs amis. Mais c'est un constat, ce n'est pas un jugement, hein, mais je crois que c'est ça. Et une fois, il y a un moment où il y a eu le plan d'occupation des sols, c'est un autre nom, j'ai oublié. Une camarade du conseil a décidé de s'occuper de ça, elle m'a demandé de l'aider. On a mis toute la carte de la commune, on a mis des couleurs, on a regardé. Puis à un moment, je me suis dit, mais il faudra quand même qu'on demande à Madame le maire et à ses adjoints quelle est sa politique. Et politique a été peut-être vue comme un gros mot, je ne sais pas, mais je n'ai eu aucune réponse. Et moi, je leur ai dit, mais moi, je vous parle du mot politique dans le premier sens du terme, c'est la vie de la cité, c'est la vie des gens.
C'est la vision, quoi.
C'est la vision, voilà. Eh bien, j'ai pas eu de réponse. Et une fois, ça avait vraiment fortement crié, beaucoup plus que d'habitude. Et là, à ce moment-là, je me suis levée, je dis, bon, ben, moi, je suis pas là pour ça. J'ai dit à Madame le maire, ben, moi, je m'en vais. Elle m'a demandé de rester, donc je suis restée. Je suis rentrée chez moi, j'ai écrit un texte que je leur ai envoyé. J'ai eu qu'une réponse, qui était celle du premier adjoint, qui m'a dit « je suis d'accord avec toi, mais c'est le seul ». Et au conseil municipal suivant, j'ai demandé en fait que chacun me réponde. « Oh, mais tu sais, ici c'est normal, on est comme ça ». Alors je me suis dit « bon, ben voilà, au revoir ». Parce que je me suis dit finalement, moi je suis pas Don Quichotte, j'ai pas envie de me battre contre des moulins à vent. Mais voilà, moi, j'ai pas de rancune, je trouve dommage qu'entre êtres humains, on puisse pas avancer ensemble. J'étais particulièrement choquée parce que moi, j'avais l'habitude de travailler en équipe. Tu vois, on peut être 100 personnes sur un plateau. Donc on a l'habitude de dire, mais moi si je fais ça, ça dérange, comment on fait, comment on peut s'arranger, et si on fait ça ensemble, etc. Voilà, j'ai pas compris que ça puisse pas être possible. Et à la décharge des autres petites communes, on leur a retiré beaucoup, beaucoup de sous, et on leur met plein de choses à faire sur les épaules. Et donc je peux comprendre aussi que quand on leur parle d'avoir une politique, eux ce qu'ils te répondent c'est, tu te rends pas compte tout ce qu'on a à faire maintenant. Mais si on est beaucoup et qu'on se partage le travail, peut-être qu'on peut arriver à faire les deux. Quand tu vois le tout petit peu de trucs qui se passent sur une toute petite commune, tu comprends qu'au niveau national, ça se passe comme ça. J'ai discuté avec plein de gens, et pour eux, c'est inimaginable de penser qu'un homme politique puisse ne pas être là pour lui. Je l'ai élu. Mais non, il s'est fait élire pour lui, il s'est pas fait élire pour toi. Hein. Mais moi, je me suis plusieurs fois dit de poser la question. Si moi, je suis au pouvoir, est-ce que je fais profiter mes amis? Tu vois, il faut se poser les questions, se mettre à la place de ces gens. Peut-être, ou peut-être pas, je sais pas.
Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben, moi, je pense que ça part du bas. Et chacun doit être droit dans ses bottes et vivre en adéquation avec ce qu'il défend. Et ça marchera par l'exemple.
Merci beaucoup.
You're welcome.
Je me lève pendant la nuit pour voir le soleil briller. Mes enfants écoutent Booba. Ils ont le droit. Y'en a qui n'aiment pas les Smiths, d'autres qui n'aiment pas la police. Faut de tout pour faire un monde. C'est politique. C'est politique.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute et d'avoir suivi cette série de 3 émissions spéciales en vue des municipales de ce dimanche 15 mars. Et merci aussi à Solène d'avoir pensé, imaginé ces émissions à mes côtés. Vous pouvez les retrouver en podcast sur le site de Radio Bartas à la page de l'émission Midi et des Poussières. N'hésitez pas à les partager et surtout n'oubliez pas de vous lever dimanche matin pour aller voter. Salut.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.
Au revoir.
Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant, de plus scandaleux que de ne pas croire en la démocratie? Moi-même, quand on me demande « êtes-vous démocrate ?», je me tape.
Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy, don't you?